Et donc, on va lire cet après-midi, on considère les versets 30 à 46. Je rappelle, hein, le Seigneur a vraiment dirigé pour que pendant notre temps, ce temps-ci de l'année où est-ce qu'on approche de la Pâque, ben qu'on est dans les événements de la Passion. Et c'est pas un hasard, je vois ça vraiment comme la direction de Dieu sur le ministère de la parole dans l'Église. Donc, on va relire ce qu'on a vu la semaine passée avec Pierre, parce que je vais amener un point par rapport à ça au début du message. Mais ensuite, on va se concentrer sur à partir du verset 36. Là, j'aimerais, là, pour se donner un peu le ressenti du passage, lire à partir du verset 30, puis on va lire jusqu'à 46. C'est un long chapitre. Alors, on ne l'a pas fini, on va le finir plus tard. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, rappelez-vous, on a vu ça la semaine dernière, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais pas pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre répondit, « Même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui. Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, en fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? » Pierre, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna encore une fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis. Il les quitta et s'éloigna, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. C'est le titre du message. Vous savez, il y a quelque chose qu'on voit, on apprend dans les évangiles. Jésus a parlé de lui et du Saint-Esprit en faisant un parallèle. Il dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Et quand il montre le mot « autre », on a deux mots dans la langue dans laquelle la Bible est écrite en grec pour dire « autre ». Un, c'est celui qu'on a dit, vous avez déjà entendu, hétéroclite. Bon, puis parce que aussi on dit hétérosexuel. Bon, il y a des, c'est-à-dire un autre, mais d'une autre nature. Mais quand Jésus dit, je vais vous envoyer un autre consolateur, il dit, c'est un autre, c'est le mot Allah, c'est un autre de la même nature. Parce que c'est l'esprit de Jésus-Christ, c'est Dieu le Saint-Esprit. Hein, on sait le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, je vais vous envoyer un autre consolateur. Puis bon, là, il rappelle dans Jean comment il voulait diriger dans toute la vérité, puis tout ça, puis il parle du ministère du Saint-Esprit. En fait, pour vous ramener un peu à ce qu'il dit là-dessus, dans Jean, au chapitre 16, versets 16 à 18, il dit encore un peu de temps, ici c'est Jésus qui parle dans le discours de la chambre haute, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns des disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, et parce que je vais au Père. Donc, ils ne comprenaient absolument rien de ce qu'ils ont tout répété ce qu'il dit, puis il y a des points d'interrogation à chaque bout. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire. Il disait donc, que signifie qu'il dit encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Ça nous donne pas mal l'atmosphère de ce qui se passait ici. Dans le jardin, les disciples étaient dépassés par les événements. La tension montait, les choses escaladaient, allaient très rapidement. Là, on sait qu'on l'a vu, Judas était parti pour trahir Jésus, le livrer, comme il dit à la fin du passage qu'on a lu. Mais Jésus, dans le discours de la chambre haute, bon, qui se retrouve pas dans Matthieu, mais il se retrouve où, le discours de la chambre haute? Dans Jean. Jean 13 à 17, c'est unique à Jean, c'est précieux, c'est comme vraiment une incursion dans l'intimité. Mais là, ici, on est après, parce que là, c'est-à-dire après avoir chanté les cantiques, puis ça, là, ils s'en vont dans le jardin. Là, donc, c'est après tout ça, après Jésus a tout donné ses paroles de réconfort. La confusion, la peur n'étaient pas partie. Et on voit les disciples ici qui devaient être encore dans la même confusion, et même que là, à s'ajouter à ça l'élément de fatigue. La journée avait été longue, il avait célébré la Pâque, c'était une journée, c'était une fête, hein? C'était pas comme il était assis, puis c'était une journée relax, non, c'était une fête nationale, il y avait beaucoup de monde, puis là, ils ont fait le... Puis là, on compte tout aussi l'élément de stress, parce que ça dit que les autorités avaient résolu de livrer Jésus, puis là, bon... Maintenant, hein? J'essaie de vous mettre un peu dans l'atmosphère de ce qui se passait ici. Puis... Je sais pas comment ça résonnait dans leur cœur, mais Jésus avait dit, je m'en vais. Puis là, ils ne comprenaient pas. Il s'en va, qu'est-ce que ça veut dire? Puis, comme je vous l'ai dit aussi, il a dit, je vais en envoyer un autre, de la même nature que moi, le Saint-Esprit. Il veut vraiment, mais il s'en va-tu? Qu'est-ce qui arrive? Mais j'essaie de souligner ça pour vous dire qu'il était probablement confus. Et il avait aussi probablement peur. Qu'est-ce que ça fait à la foi, ça? Ça mine la foi. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Mais quand on est confus, la foi est confuse aussi. Puis quand on a peur, combien de fois Jésus a dit, n'ayez pas peur, gens de peu de foi. Ou quand dans... Ça a l'air que c'est la chose qui est dit le plus souvent dans la Bible par Dieu, c'est n'ayez point peur. On voit ça dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, dans le Nouveau Testament, dans... N'ayez point peur. Fear not, ils disent en anglais. Ça se dit, c'est cool. N'ayez point peur, ne craignez point. Et donc, ça aussi, pourquoi? Parce que la peur aussi s'attaque à la foi. Donc, il était ici dans un moment critique où est-ce qu'il était appelé à veiller. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup en jeu. Et ça nous rappelle ce qu'on a vu la semaine passée avec Jésus qui s'adresse à Simon-Pierre, hein, puis il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Pourquoi Jésus a prié? Pour pas que sa foi défaille, parce que c'est ça qui était sous attaque avec toute cette atmosphère-là. Donc là, il était à pied à veiller par rapport à cette foi qui était spécialement sous attaque. Bon, je sais que ça a fait 2000 ans, puis ça n'a pas rapport vraiment pour nous autres, parce que nous, on n'a plus besoin de foi, hein, de nos jours. Non. Dans les temps comme on a encore vraiment besoin de veiller, de prier, parce que notre foi, elle est sous attaque. Dans les circonstances personnelles de la vie, dans les circonstances de la société, dans nos relations interpersonnelles, on parlait de pardon ce matin. Apprendre la foi pour pardonner, vivre à la lumière du pardon qu'on a eu, puis de répondre à ça en pardonnant, même ceux qui nous ont offensés, fait du mal, tordu le cœur en deux. Donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble avec ici, c'est quoi le sens de cette expression-là avec ce qui se passe dans le texte de « veiller avec Christ ». D'abord, dans les versets qu'on a considérés la semaine dernière puis qu'on a relus, les versets 30 à 35 avec l'exemple de Pierre, là. D'abord, on voit un terrain propice, c'est-à-dire la bonne disposition du cœur. Il faut qu'on veille sur notre cœur, veille sur ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Je l'ai dit par cœur, je ne l'avais pas écrit, là. Et là, évidemment, on sait, Jésus l'avertit, hein? Avertit Pierre, dit, Pierre, parce que, ben, en fait, il a averti tout le monde cette nuit, mais là, Pierre, qui lui, on l'a vu la semaine passée, hein, qui avait une confiance trop grande en lui-même, Jésus l'avertit spécifiquement. Et ce qu'on voit, comment s'exprime son doute, c'est que Jésus a dit des choses claires et nettes, mais Pierre, il répondit au verset 35, même si. Il ne s'incluait pas, il ne se voyait pas là-dedans, même s'il fallait mourir. Vous savez quoi? Ce doute-là partait d'une confiance en lui-même, mais pas dans le Seigneur. Puis comment qu'on voit ça? Qu'est-ce qu'il a fait? On l'a vu, hein? quand que les gars sont arrivés, il a sorti l'épée, puis il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Et on a vu la semaine passée que ça n'a pas donné des bons résultats. Il avait confiance en sa propre chair. Donc, c'est quoi la bonne disposition du cœur? C'est d'être sain d'esprit. Voir qu'en nous-mêmes, on n'a aucune force par nous-mêmes. Être sain d'esprit, c'est pas être intelligent. C'est reconnaître pour ce qu'on est. On est des vases vides. On est totalement dépendant de la grâce de Dieu. Et si ce n'est pas de la grâce de Dieu, on ne peut rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est d'être terriblement conscient de cette vérité dans nos vies. Et ça nous montre aussi, il faut faire attention, parce que dans le service de Dieu, avec toutes sortes de bonnes intentions, la chair peut être là, à fond les manettes. Parce qu'ici, notre cher Pierre était très sincère, puis il n'avait pas d'intention de renier Dieu, mais il s'appuyait sur le bras de la chair, et non pas sur l'Éternel. Puis, au verset 41, quand Jésus, ce fameux verset, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Pierre devait réaliser, puis on l'a vu la semaine passée, il a réalisé à quel point sa chair était faible. Rappelez-vous quand il y a eu ce regard au moment où est-ce que Pierre a renié Jésus, je pense que ce regard disait, tu vois Pierre, comment tu as besoin de moi, tu vois comment ta chair elle est faible, tu vois comment tu ne peux pas rien faire sans moi. Je pense pas que c'est accusateur qui voulait, mais c'était un rappel de la vérité de l'état de qui il est. Puis en même temps, je pense qu'il y avait le bras tendu de Christ à travers ce regard. Et j'aimerais dire là-dessus qu'il y a un grand piège dans le fait d'être très bien disposé à vouloir servir le Seigneur. Parce que la chair peut s'en mêler. Ça dit à quelque part dans les le Deutéronome, je pense que c'est dans le livre des Nombres. Grandes furent les dispositions de leur cœur. Ça le répète, grandes furent les dispositions de leur cœur. Le peuple était tout motivé et tout ça, mais on voit dans la suite du texte que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Pourquoi? Parce qu'il y avait des résolutions qui étaient là, qui étaient sincères, mais la confiance était à la mauvaise place. La confiance était en soi et non pas en Dieu. Et donc, c'est vraiment ça l'important ici. La première chose, le terrain propice pour veiller et prier, c'est d'avoir cette disposition de cœur humble. Humble et dans la simplicité de reconnaître notre dépendance de Dieu. Comme notre frère et notre sœur, ben en fait, puis aussi, ils ont chanté, puis ils étaient accompagnés par Pascal, sur s'humilier afin que Dieu nous élève. Grande vérité de la parole de Dieu. Et donc, ça, c'est la disposition du cœur, c'est le terrain, c'est la mise en place. Ensuite, il y a la mise à l'épreuve. Donc, on voit les choses qui se placent au début. Là, on avance un peu. La mise à l'épreuve, j'ai appelé ça un éloignement nécessaire. Vous avez vu que ça dit, Jésus est là. Il rentre dans le jardin de Gethsémané. Bon, puis déjà, il laisse certains disciples derrière. Il prend à part Pierre, Jean-Jacques. Et là, il prie, puis il les laisse, eux, pour veiller seuls. Parce qu'il dit au verset 38, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Jésus voulait leur donner une leçon sur eux-mêmes, justement. Et peut-être aussi spécialement à Pierre, en les laissant comme ça pour voir justement de quel bois ils chauffaient, comment était la réalité de leur force, de leur capacité. Il voulait leur montrer à quel point ils avaient besoin de lui. Il ne voulait pas les humilier et leur faire du mal. Il voulait leur révéler qui ils sont vraiment. Et savez que ce n'est pas la seule place. On apprend dans 2 Chroniques, chapitre 32 et 33, que le roi Ézéchias, qui était un bon roi, ça dit que l'Éternel, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui, auprès d'Ézéchias, pour s'informer des prodiges qui avaient lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Ce n'est pas que Dieu ne savait pas, mais c'est parce qu'il voulait révéler à Ézéchias qu'est-ce qui était dans son cœur. Et c'est la même chose ici, avec ce qui arrive dans le jardin de Gethsémané. Et, vous savez, il faut voir là-dedans, pas que Dieu veut essayer de nous humilier, nous faire sentir mal. Dieu veut nous faire grandir avec ça. Quand on est immature, On a une confiance en nous-mêmes, puis on pense qu'on peut sauter du divan puis voler comme Superman. Moi, je me rappelle, quand j'avais peut-être 5-6 ans, j'étais chez grand-papa puis grand-mère avec ma soeur, puis c'était l'Halloween, puis j'avais mon déguisement de Superman. Puis je vous dis, là, j'étais vraiment sincère, là. En sautant du divan, là, j'espérais de voler un bout, là, tu sais, avec ma cape. J'ai-tu volé? Non, en fait, ben, j'ai volé. Techniquement, ouais. Et c'est surtout mon oncle, ma tante en bas, il a entendu bang, bang plusieurs fois. Ben, j'ai laissé plusieurs fois, là. Puis, j'ai jamais réussi à être Superman, j'avais la cape, mais. Ou c'était Batman, je sais pas trop. J'ai la photo où je vous montrais ça, c'est drôle. Hey, vous avez jamais vu votre pasteur en petit Batman sur dos, là? Aïe, aïe, aïe. Mais, c'est ça, un enfant. Tu sais, il y a cette. Bon, il y a la beauté d'une foi enfantine, mais en même temps, un enfant, c'est ça. Il réfléchit pas, pis ça. Mais en étant adulte, en grandissant dans Dieu, dans la connaissance de la parole, on se rend compte à quel point on est incapable. Puis quand. Tu sais, avant, on peut dire, ah oui, sans moi, je peux rien faire. Mais plus on avance dans la vie chrétienne, on se dit, sans Dieu, je peux rien faire. J'ai essayé à gauche, j'ai essayé à droite. Ça marche jamais quand j'y vais par la force de ma chair. Comprenez-vous? Il y a une maturité spirituelle là-dedans d'en être conscient. Et c'est ça que Dieu voulait amener ici. Il ne voulait pas les pointer du doigt. Ah, je vous l'avais dit. Non, il voulait leur montrer la réalité de leur état pour qu'ils gagnent en maturité spirituelle. Donc, il y avait un éloignement nécessaire. Il les a laissés là pour qu'ils réalisent la réalité. Ça le dis-tu, ça? En tout cas, lui, il dit, c'est pas grave, trop tard. Mais qu'ils se rendent compte de la réalité de leur état spirituel devant Dieu. Ça m'amène au troisième point. Là, on a la leçon du maître. Parce qu'au verset 39, 42 et 44, on entend Jésus prier. Est-ce qu'il les entendait? Est-ce que les disciples entendaient Jésus? Ça dit un jet de pierre, probablement qu'il était capable d'entendre, ou au moins il pouvait le voir dans l'agonie, puis il le voyait comme ça. Peut-être qu'ils se sont endormis avant de l'entendre comme il faut, mais on entend ce qu'il dit, puis ayant fait quelques pas devant et se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Puis il répète la même chose au verset 42. « Mais se réveillant une seconde fois et pria, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Puis ça fait simplement dire au verset 44, « Il les quitta et s'éloigna, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. » La leçon du maître, c'est pas juste qu'il le voyait prier, c'est qu'à toutes les fois, il revenait, puis il les retrouvait endormis. On voyait quelqu'un qui veillait puis qui priait, puis l'autre qui était apesanti par le sommeil, qui était à s'endormir. Et cette leçon-là, voici, je pense qu'on peut en tirer. Le Seigneur priait pendant qu'eux dormaient. Eux autres, bon, je l'ai dit tantôt, il y avait certainement de la confusion, de la peur, ils ne comprenaient pas exactement tout ce qui arrivait. Mais on a ici une leçon par contraste. Quelqu'un qui veille, qui prie, puis d'autres qui dorment. Et je crois que ce qu'on peut apprendre de ça pour nos vies, c'est quand on reconnaît notre faiblesse, okay? Quand le terrain propice de notre cœur est là, qu'on voit comment on a besoin du Seigneur, quand on est comme ça aussi mis à l'épreuve par le Seigneur pour voir vraiment c'est quoi la disposition de nos cœurs. Lorsqu'on est comme ça, on est prêt à apprendre quelque chose du Seigneur. Et je veux juste vous dire ici, c'est quoi que le Seigneur leur enseigne, juste de par sa posture. Il s'est jeté sur sa face. Et on apprend dans Luc qu'il y avait il suait au point d'avoir des grumeaux de sang. Il était dans une humiliation, une humilité extrême. Il venait dans un état de grande faiblesse devant son Père. Donc, il leur renseignait ce qu'il leur demandait, ce qu'il leur... OK? Puis, il a ouvert son cœur, hein, de la bouche du Sauveur, de celui dont Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il dit, « Père, si cette coupe peut s'éloigner, je veux dire, c'est quasiment quoi le Fils de Dieu qui demande ça? Ah, c'est parce qu'il. C'était la pire. Puis on ne peut pas comprendre pour nous. On dit, ah, il ne voulait pas se faire battre par les soldats romains parce que c'est très. En fait, ce n'était pas ça la plus grande souffrance de Christ. La plus grande souffrance de Christ, c'est qu'il a pris la colère, la pleine colère de Dieu contre le péché sur lui, puis a été séparé. C'est ça, cette coupe qui s'en venait pour lui. Donc, il a. Il y a eu cette humilité, cette transparence d'ouvrir son cœur devant Dieu, puis il s'en remet à lui. OK, il ouvre son cœur, mais il dit non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Donc, en étant disposé, s'il y en a qui tiraient comme ça un peu l'oreille pour entendre, il y avait une des plus grandes leçons de leur vie devant eux autres. Puis ils n'ont pas juste vu ça une fois, puis là, ils s'assuraient, ils venaient les voir pour les réveiller, puis ils retournaient, qu'est-ce qu'ils enseignaient? La persévérance. Un de mes héros de la prière, c'est Georges Müller, qui est un homme de la même nature que nous, là, mais qui, en réponse à la prière, c'est incroyable, le gars avait littéralement zéro rien. En fait, le peu qu'il avait, quand Dieu a mis à cœur ce qu'il avait à faire pour aider les orphelins dans la région de Bristol, il a donné le superflu qu'il pouvait avoir. Il y avait 4 assiettes, lui et sa femme, ben, ils ont donné 2 assiettes. Il y avait 4 fourchettes, ben, ils ont donné 2 fourchettes. Parce qu'on est, 2, tu sais. Comprenez-vous? C'était à ce point-là, là. Puis le verset que le Seigneur avait donné, c'est dans le psaume 80, « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Fait qu'il dit, ben, pour que Dieu la remplisse, il faut qu'elle soit vide. Fait que... Puis Georges Müller, dans le fond, là, avec absolument rien, là, ce qu'il voulait montrer, c'est que Dieu pourvoit aux besoins de son peuple. Et juste en réponse à la prière, là, j'ai plus les chiffres exacts, là, mais il a construit plusieurs orphelinats. On compte ça en milliers le nombre d'orphelins dont il s'est occupé, qui a nourri, puis okay? Puis en plus de ça, il a donné à l'œuvre missionnaire avec Hudson Taylor qui était en Chine, puis donc, puis c'était quelqu'un qui priait, qui cherchait le Seigneur, puis là, mettons, il y avait un surplus, puis ce qu'il avait dit au peuple, là, parce qu'il était pasteur d'une petite église comme ici, puis il avait dit, regardez, moi je ne vais rien demander à personne sauf à Dieu, mais si Dieu vous met quelque chose à cœur, faites juste que Dieu vous montre. Fait que des fois, il peut y avoir quelqu'un qui avait quelque chose à cœur, puis tout ça, puis là, fait que des fois, bon, Dieu a pourvu comme ça, puis même en ayant du surplus, hein, et ben, les surplus qu'il avait, il les a donnés, puis il y a une histoire qui raconte que Hudson Taylor, tu sais, sur le champ missionnaire, les choses étaient très serrées au niveau financier, puis là, il faisait les calculs pour arriver, puis tout ça, puis là, il prie, Seigneur, là, faut que tu fasses de quoi, parce qu'on n'arrive pas, là, la fin du mois, là, mais... Savez-vous quoi? Dieu avait mis à cœur à Georges Müller, dans la prière, de donner un montant, puis croyez-le ou non, le montant qu'il avait besoin, c'est le montant qu'il a reçu. À la scène près, là. Ou à les pounds, c'est quoi les fractions des pounds? C'est des shillings. Au shilling près. Je pense que c'est des shillings. Mais c'est ça. Ça, c'est notre Dieu. Il est vivant. Il connaît les besoins de son peuple et tout ça. Et donc, tout ce que je voulais dire avec ça, avec notre cher Georges Müller, c'est que les gens, à un moment donné, bon, on a cette tendance-là humaine, là, quand il est devenu plus vieux, il est devenu connu, puis là, il allait dans une église, mettons, comme la nôtre, puis là, il était le prédicateur invité. Puis là, les gens, ils vont, oh, c'est Georges Müller, puis Dieu répond tellement à ses prières, puis ils disent, hey, j'ai rien de spécial, là. Il me dit, vous pouvez prier, puis voir la même chose. Mais il dit, je dirais que je vois quelque chose dans ma vie que je vois pas chez beaucoup de chrétiens. C'est beaucoup de chrétiens, ils prient, puis quand ils n'ont pas la réponse à la prière, ben, il laisse tomber, il dit, ben, pour moi, ça ne devait pas être la volonté de Dieu, puis, OK? Ben, dis-moi, quand que je sais que Dieu m'a mis quelque chose à cœur, ben, je prie jusqu'à temps que je vois la réponse.
Amen.
Puis, c'est pas plus compliqué que ça. Il persévérait dans la prière. N'est-ce pas que la Bible nous dit de persévérer dans la prière? Et d'ailleurs, c'est encore là une anecdote, mais Dieu avait vraiment mis à cœur fortement sur le cœur de cet homme de prier pour le salut de 5 personnes. Bon, peut-être pas juste ces personnes-là, mais il y a 5 personnes que l'histoire nous relate qui avaient à cœur. Il y en a 2 qui ont été sauvées quand même assez relativement après, qui a eu à cœur de prier. Un qui a été sauvé plus tard, puis 2 qui ont été sauvés après sa mort. Ils ont tous été sauvés en réponse à sa prière. Il a persévéré jusqu'à sa mort. Et Dieu a répondu. La leçon du maître. Il y a une autre leçon du maître qu'on peut voir aussi sur l'humilité qui enseigne la dépendance. Regardez au verset 40 et 41. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est quoi que le Seigneur enseigne là? À veiller dans la bonne disposition d'esprit. On se rappelle que Pierre, mais pas seulement Pierre et les autres se croyaient capables, n'est-ce pas? Même si tous, puis les autres ont tous dit la même chose. Attends, je vous juste, je vous le relis, verset 35. Pierre leur répondit, même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Okay? Ils se croyaient capables, mais leur chair était incapable. Leur esprit était bien disposé, mais leur chair était faible. D'où l'importance à ce que notre esprit cède à l'esprit de Dieu. C'est un autre, ici, une leçon. OK, ces gars-là avaient des bonnes intentions, j'en ai aucun doute pour dire, mais je l'ai souligné tantôt, ils étaient prêts à mourir vraiment. Ils n'auraient pas sorti une épée devant autant de soldats armés jusqu'aux dents s'ils n'avaient pas été sincères. Sauf que la sincérité n'est jamais le critère pour la victoire spirituelle. On peut être sincère, mais sincèrement dans le champ, sincèrement, tu sais, à se tromper. Pis. Mais, on apprend plus tard dans le Nouveau Testament que si on marche par l'Esprit, on ne va pas accomplir des désirs de la chair. Et bon, les gars n'étaient pas exactement rendus là. Là, on est des évangiles, on comprend s'il y a un temps intermédiaire entre la révélation de l'Ancien Testament et du Nouveau, donc c'était pas tout complet ce que nous on apprend dans les Épîtres et tout ça. Mais certainement que Jésus ici faisait appel à leur conscience, faisait appel au fait que il n'y avait pas en eux, dans leur chair, dans leur propre capacité, dans eux-mêmes, la capacité d'accomplir ce qu'il lui demandait, de veiller, de rester là, puis. OK? Et c'est ce que le Saint-Esprit fait constamment dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand ça nous dit que marcher selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, là, le ministère du Saint-Esprit nous rappelle constamment que on n'est pas capable nous-mêmes. Quand on lit la parole, il nous montre. Puis qu'on est totalement dépendant de Dieu pour tout. Puis malheureusement, souvent, les leçons qu'on a le plus apprises, c'est quand on a été tellement sincère, à fond des manettes, puis bang, on s'est planté le nez, pas à peu près. Est-ce quelqu'un qui est dans mon club ou je suis seul? On est trois. Ah, oh, les autres, vous êtes pas honnêtes! Oh. Et finalement, ça nous amène au dernier point bien important. Verset 45-46. Puis alors, donc là, Jésus a fini de prier, on a tous considéré ça. Il a prié trois fois, persévéré et tout ça, puis. Puis il alla vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Là, Jésus demandait une réponse. Il les a mis face à eux-mêmes, il les a laissés comme, « OK, qu'est-ce que vous faites quand je vous laisse comme ça devant ?» votre propre personne, où est votre confiance, est-ce qu'elle est dans la chair ou est-ce qu'elle est en moi? Mais là, il leur demande, venez, allons. Jésus suscitait la réponse de la foi. Quand il dit venez, allons, là, on va prendre une petite marche, puis non, allons vers la mort, dans le fond, c'est ça que ça voulait dire. Tu sais, c'est ça que c'est Thomas qui a dit ça. Oui, c'est Thomas le pessimiste. Hein? Allons, on va mourir, tu sais, on va le suivre, là, c'est dans Jean, c'est humoristique. Il y a des bouts humoristiques. Oh, OK, on va le suivre, on va tous mourir. Bonjour Thomas, lui là, le verre était tout le temps à moitié vide. C'était le pessimiste de la gang. Donc, il y a une réponse de la foi qui est exigée ici. Et je dirais, ça nous amène à l'aboutissement de toute cette idée de veiller et prier. C'est que c'est pas juste, ah ok, j'ai veillé puis prié. On veille, on prie dans le but de... Dieu nous amène quelque part avec ça. Dieu veut qu'on veille et qu'on prie en voyant, c'est sûr, comment qu'on est dépendant de lui, comment on ne peut pas par nous-mêmes, mais dans le but de nous faire avancer dans ce que lui a pour nous. Puis ça, c'est ça la réponse de la foi. On ne sait pas c'est quoi. Dieu nous demande de faire confiance, mais on doit lui faire confiance. Comprenez-vous? Il les amenait vers... Ici, là, c'était littéralement de l'inconnu. Mais Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Puis il les amenait à y faire confiance. Oh, mes amis, on a des leçons importantes par rapport à ça. Vous savez que la suite des choses nous montre que les événements qui sont arrivés ont complètement transformé la vie des disciples. On sait, là, il y a eu un traumatisme. Là. Mais vous savez que les traumatismes, souvent, c'est les meilleures leçons de Dieu. Hey, juste pour une petite illustration très actuelle. C'était-tu traumatisant quand la police est venue puis tout ça? Mais est-ce qu'on s'entend que, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, j'ai appris bien des affaires. Puis à connaître mon Dieu, c'est quoi? Dieu nous a amené à la réponse de la foi. Il y a des choses qu'on savait, puis qu'on dit, OK, comme Église, on veut que Christ soit à la tête. Mais là, OK, allez-vous me faire confiance maintenant? Voyez-vous, Dieu nous a amené à la... Puis, ça a amené d'une chose à l'autre, et le Seigneur nous amène à grandir en lui, en confiance en lui. Et c'est ça que le Seigneur veut faire. Lorsqu'il nous dit « veillez et priez », ici, il les a repris, il a dit « vous n'avez même pas pu veiller une heure avec moi ». Oui, il nous met face à nous-mêmes. Oui, il nous montre comment on est incapable en nous-mêmes. Mais il veut nous amener à se confier en lui, à voir comment sa grâce est suffisante. Comment, lorsqu'on est au point de notre totale faiblesse et dépendance, on rencontre sa grâce à ce moment-là. De la même manière qu'au moment, rappelez-vous la semaine passée, au moment où est-ce que Pierre a renié Jésus, au pire moment de sa vie, le regard de Jésus l'a attrapé tout de suite. Dieu veut faire la même chose avec nous autres. Dieu nous amène au bout de nous-mêmes, de notre confiance, de nos raisonnements, de nos capacités, parce qu'il veut nous rattraper avec le filet de sa grâce. C'est ça la réponse de la foi. Il veut nous amener à, OK, jette-toi. Jette-toi dans le vide. Mais tu ne te jettes pas dans le vide, tu te jettes dans mes bras. C'est juste que tes voix pas sont là, ils t'attendent. Tu te jettes dans mes mains, invisibles, mais tout aussi réelles. C'est ça la grande leçon de ce qu'on a ici, parce que, on va le voir là, il n'y avait pas fini, le traumatisme, là, nous, là, c'est rien là, la visite de la police, là. Imaginez-vous une cohorte qui arrive là, c'est combien non? Je savais le chiffre, les Romains, une cohorte, c'est-tu 500 ou 100? En tout cas, il était beaucoup là, tu sais, puis ils ont des lances, ils ont l'armure romaine là, comme dans Éphésiens 6 là, le casque, tout le kit, les boucliers là. Lui, là, avec sa petite épée, il faut quand même le faire à Pierre. Hein? Il a sorti de la chaloupe, puis il a sorti son... Il faut... En tout cas, Pierre. Mais le Seigneur, il les faisait passer par là, parce qu'après ça, il était prêt, littéralement, pour changer le monde. C'est pas eux qui l'ont changé, parce qu'il était tellement conscient qu'il ne pouvait vraiment pas changer le monde. Mais là, il était des instruments disposés pour que Dieu change le monde avec eux autres. Une petite gang de gars pas éduqués, même méprisés, des Galiléens, puis même dans le monde païen, des Juifs. Dieu les a utilisés. Puis on a encore aujourd'hui, la chrétienté influente notre société. Je n'ai pas des fois les gens ont des sentiments anti-chrétiens. Vous savez quoi? Les femmes ont dans notre société la liberté puis la place qu'ils ont parce que Jésus a donné aux femmes autour de lui. Vous savez, c'était révolutionnaire des femmes qui suivaient Jésus avant, là. C'était pas le même du tout, là. Jésus a donné une dignité, une importance à la femme qui c'était révolutionnaire. C'était comme, voyons donc, ça se peut pas. Puis justement, pour rien qu'il y ait autant de femmes qui suivaient puis qu'au début du christianisme, parce que ils trouvaient cette significance. C'est quoi? Cette significance. C'est quoi donc cette signification, cette sécurité, puis cette, je l'ai dit tantôt. C'est quoi, aide-moi, Sébastien, je l'ai dit hier, on l'a vu hier. Sécurité, signification, puis...
Appartenance.
On trouve ça en Jésus-Christ. Puis, ces gens-là ont amené ça au monde. Savez-vous quoi? C'est encore de même. Notre monde est vraiment, là, littéralement, notre monde est éparpillé. Il est... C'est comme si on a pris notre monde et on l'a tiré comme un vase, paf, puis c'est tout parti en morceaux. Moi, j'en reviens pas de voir notre société, elle est désassemblée. La cohésion sociale, puis... Hey, pour vous dire, quand je vois sur Accéder, là, y a la dernière photo, je l'aime parce que c'est une madame qui fait une colle, ça doit être une amie ou je sais pas trop, je sais pas si c'est sa fille, mais la photo... Tu sais, elle fait une colle, puis c'est une belle colle. Ça me fait du bien juste de voir ça, une image de même d'une personne qui fait une colle. Parce que tu vois vraiment, là, c'est une belle colle, là, tu sais. Elle fait un sourire, puis tu vois qu'elle a la colle de même, là. Parce qu'on a besoin, Dieu nous a créé pour ça. Dieu nous a créé d'abord pour lui comme ça, mais aussi il nous a fait à son image, on a besoin de ça, les uns avec les autres. Et c'est pour ça que c'est tellement important dans le monde où est-ce qu'on est, qu'on fasse confiance à Dieu pour laisser Dieu être Dieu, laisser la parole être la parole, laisser Christ être le chef de l'Église. Pas parce qu'on veut montrer notre point, tout ça, parce que, mes amis, c'est ça la chrétienté. C'est ça le message qu'on a au monde. C'est ça que Dieu nous amène à être dans ce monde. C'est comme ça qu'il a changé le monde. Hey, les religions païennes, les cultures païennes, c'est des dieux jamais contents. Puis là, tu sais, t'espérais que c'était correct, qu'il allait pas te tuer, puis que le ciel allait pas te tomber sur la tête. T'sais, ils faisaient des jokes avec ça, là, partout Tatis, machin truc, dans Obélix. Mais il y avait vraiment peur que le ciel lui tombe sur la tête parce que leur dieu était vengeur. Puis la chrétienté nous montre un dieu tellement différent. Puis c'est ce qu'on propage, c'est ce qu'on incarne dans ce monde. Et donc, Jésus les a amenés à travers ça. Oui, c'était douloureux, veiller et prier, mais il y avait un but. Dieu voulait accomplir ses plans rédempteurs. Donc, Dieu nous amène à prier pour vous dire, « OK, tenez-vous bien, là, puis là, la tempête va passer, puis ça, je vais vous prendre au ciel, ça va être fini. » Non, Dieu fait des choses encore. Tu sais, il nous fait passer au travers parce qu'il veut accomplir ses desseins bienveillants à travers nous qui sommes son corps. Amen? Good. Avez-vous des questions? Ben, je vais prier. On te remercie, Seigneur. De voir les évangiles, c'est, il y a quelque chose de vraiment unique et d'extraordinaire de voir Christ le Seigneur lorsqu'il était ici sur terre, dans sa relation avec... On voit vraiment qu'il il contrôle absolument tout. Tout était une leçon. Tout était le plan bienveillant du Père qui s'accomplissait à travers le Fils par le moyen du Saint-Esprit. Merci Seigneur, tu es le Dieu souverain, tu es le Dieu qui règne. Et c'est un règne bienveillant. Merci de nous avoir mis dans ce règne, sous ce règne, par notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, qu'on partage cette bonne nouvelle de la vie pour ceux qui sont morts, du royaume de Dieu pour ceux qui sont dans le royaume de Satan, de la lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. C'est le message d'espoir de ce monde. Il a changé le monde depuis 2000 ans. Et Seigneur, tu n'as pas fini. On est ici sur terre parce que tu veux continuer. Aide-nous simplement à veiller et prier. À nous rendre compte à quel point la chair ne sert à rien. Et Seigneur, si tu nous appelles comme ça à veiller et prier, c'est parce que tu veux nous amener, Seigneur, par la réponse de la foi, à accomplir tes plans, que souvent on ne comprend pas du tout. On ne sait pas où tu vas en arriver, mais ce n'est pas grave, Seigneur. C'est tes plans, ce n'est pas les nôtres. Et tes pensées sont au-dessus de nos pensées. Tes voix sont tellement au-dessus des nôtres. Merci que tu aies voulu comme ça, afin que notre confiance ne repose pas en nous-mêmes, mais en toi. On te bénit, Seigneur, on te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen, si vous avez à cœur de